Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes actuellement sur la 94.9 FM sur Graphite et vous écoutez Coup Critique, c'est l'émission qui parle de BD, de romans, de mangas et de tout ce qui s'en rapproche. Je m'appelle Aeva et j'ai avec moi Oscar et Melwan.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous. Et on est tous les trois membres de la BD BDEC, donc bibliothèque de bande dessinée des étudiants de Compiègne. Vous pouvez nous retrouver du lundi au vendredi au rez-de-chaussée de la bibliothèque universitaire de l'UTC et aussi nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram pour découvrir nos activités et notre collection. On est parti pour une heure d'émission. On commence tout de suite avec une discussion autour de nos dernières lectures. C'est parti. Oscar, tu es l'invité, à toi l'honneur. Parle-nous de ce que tu as fait récemment.
Bah déjà, merci de m'accueillir dans cette émission. C'est un peu un rêve qui se réalise là, de passer sur Graphite.
Ça nous fait plaisir de te recevoir. Donc
Bah, merci beaucoup.
Pas de souci.
Donc moi, je vais vous parler d'un livre qui m'a été conseillé d'ailleurs par une ancienne membre de la BDBDEC aussi, donc, qui s'appelle « Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective ». C'est un essai écrit en 2023 par Camille Etienne aux éditions du Seuil. Donc Camille Etienne, on va parler un peu de l'autrice avant de parler du livre. Je ne sais pas si vous connaissez.
Pas du tout.
Moi, je l'ai découvert sur les réseaux et elle se définit comme activiste pour la justice sociale et climatique. Elle a 25 ans, donc mon âge. Elle est diplômée de Sciences Po et en 2020, elle crée le collectif Avant l'orage, qui milite et produit des vidéos, des courts-métrages sur divers scandales écologiques et pour informer notamment autour de ces sujets-là. Donc c'est très cool ce qu'ils font, je vous invite à aller voir ce qu'ils font sur Instagram, YouTube, Avant l'orage, voilà. Donc pour revenir au bouquin, son écrit, il dépeint des scandales écologiques, sanitaires qui ont pu se passer à travers les époques et notamment dans les deux derniers siècles. Donc comme par exemple... le scandale du chlordécone dans les Antilles, donc un pesticide pour les bananiers qui s'est révélé très cancérigène et qui a intoxiqué un peu toutes les populations, ou encore les techniques de l'industrie du tabac pour minimiser les effets sur la santé, les effets du tabac, ou encore le géant Total, grand acteur du réchauffement climatique, on le sait, qui se cache derrière des financements aujourd'hui écologiques pour faire bonne figure. Donc pour elle... Elle a été engagée très tôt parce qu'elle vient d'un petit village de Savoie où elle a vu année après année, depuis son enfance, le glacier en face de chez elle, tout simplement ne pas se régénérer avec les années. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'elle appelle au soulèvement en fait, de chacun pour aller dans cette lutte écologique, mais elle dit qu'il n'y a pas de déclic. Ce n'est pas un jour on se réveille, on a vu une émission, on a vu quelque chose et on va se dire je vais me lancer dans la lutte tout de suite. Pour elle, ce mythe du déclic, comme si on l'attendait, ça rend passif les gens et du coup ça empêche un peu ce soulèvement. C'est assez intéressant parce qu'elle décrit la problématique climatique comme quelque chose de complexe et non pas de compliqué. Et forcément, elle va décrire ses actions, mais il y a aussi du paradoxe. C'est-à-dire que oui, parfois quelques activistes vont prendre l'avion pour se rendre à une réunion beaucoup plus vite, ou parfois utiliser même les réseaux sociaux qui sont très polluants. Donc voilà, c'est une lutte qu'on doit gérer, malgré les détracteurs, mais dans son monde. Elle met aussi le doigt sur le fait que la lutte écologique ne se fera pas sans inclusivité. En fait, on se rend compte que les gens qui ont la main mise sur les luttes sociales, sur les injonctions patriarcales par exemple, les inégalités, c'est les mêmes personnes qui nous poussent à surconsommer et qui nous poussent dans des débats sans fin qui ne sont pas vraiment... qui nous empêche en fait de lutter contre le vrai problème. Donc ce qu'elle dit très bien, c'est que quand on va avoir par exemple un arbre malade, il faudrait le couper tout de suite pour éviter de propager la maladie, et en fait ces acteurs-là vont nous pousser à débattre sur quelle branche on va couper en premier. Donc du coup on va laisser la gangrène, la maladie aller sur l'arbre et contaminer tout le reste. Enfin, elle parle aussi de désobéissance civile, et ça j'ai trouvé ce chapitre très intéressant du pourquoi désobéir, comment désobéir. Moi, personnellement, j'ai du mal à désobéir, à aller dans les manifestations. Je n'ai pas été éduqué vraiment comme ça. Et donc, malgré le fait que je soutiens la plupart des actions de désobéissance civile, notamment sur le climat, et donc ça m'a beaucoup parlé parce qu'elle explique qu'avant d'acquérir des droits, avant d'être dans la légalité, on est toujours dans l'illégalité. Elle le dit très bien en disant, par exemple, que les femmes n'ont pas obtenu le droit de vote en votant, ce qui serait totalement bête, si j'ose dire. Donc, pour conclure, c'est vraiment un récit qui m'a vraiment déjà bouleversé. J'ai appris beaucoup de choses. Et ça a résonné en moi, même avant le sujet, parce que c'est une jeune femme qui est née dans un petit village. Moi aussi, je viens d'un petit village, qui est partie après à Paris pour faire Sciences Po, qui s'est rendue compte que les gens, ils pensaient pas forcément compte comme elle, qu'ils étaient un peu déconnectés de la nature, etc. C'est un peu ce qui s'est passé aussi quand je suis arrivé à l'UTC, où j'ai rencontré plein de gens, donc des gens de tous bords, évidemment, mais je suis sorti de mon petit village avec la même pensée collective. Et j'ai aussi beaucoup aimé, franchement, aller le lire, parce que c'est un récit qui n'est pas moralisateur, qui n'est pas culpabilisant, c'est des faits qui sont toujours sourcés, qui font appel à d'autres livres, qui m'ont donné d'ailleurs envie d'aller chercher ces nouveaux livres. Et on est loin des récits un peu extrémistes sur l'écologie, qui rebutent tout de suite et qui ne donnent pas du tout envie de se soulever. Comme elle le dit, elle n'attend pas que ce livre ça soit un déclic pour nous et que, à la fin du livre, on aille prendre les armes et se jeter sous les machines minières, par exemple, ou lancer de la soupe sur des tableaux, etc. C'est pas du tout son discours. Donc c'est vraiment, pour moi, aujourd'hui, donc déjà, j'aime beaucoup l'autrice, qu'elle fait, ses actions, et c'est pour moi aussi un discours qui aide vraiment cette cause-là, parce que, il est, voilà, encore une fois, il est pas moralisateur, il est pas culpabilisant, et il aide tout simplement par sa bienveillance, si on pourrait dire, et puis l'exposition des faits à avoir envie de lutter. Voilà, tout simplement. J'ai adoré, hein. Allez-y. en fermant les yeux, c'est assez accessible, il est assez court aussi. Donc.
Okay. Mmh, okay. Ok, bah en tout cas, ça sent que t'as adoré, donc ça fait plaisir. Moi, je ne l'ai pas lu, mais je trouve ça assez intéressant, cette histoire du mythe du déclic. En fait, j'en avais jamais vraiment entendu parler, mais c'est vrai, quand on y réfléchit un petit peu, que on attend qu'il y ait un événement particulier qui nous pousse à faire quelque chose, alors que pas nécessairement, ça n'arrive pas. Et je trouve ça intéressant qu'elle présente les choses comme ça, et aussi si elle est effectivement pas moralisatrice et tout, et qu'elle ose entre guillemets présenter aussi les paradoxes de la lutte, par exemple le fait que parfois elle-même ou des militants sont contraints de prendre l'avion, ce genre de choses, ce qui n'est pas bien. Ça met je pense que ça pose un autre regard et un autre peut-être une humilité sur la situation. Et enfin, je ne l'ai pas lu, du coup, je ne fais que des suppositions. Mais du coup, je pense que si c'est présenté comme ça, effectivement ça doit être bien.
C'est très détaillé quand tu l'as expliqué. Franchement, j'aime beaucoup. Surtout que, comment dire, j'ai le livre en face de moi et je ne me douterais pas qu'il y ait autant d'éléments à l'intérieur. Donc franchement, ça m'intéresse beaucoup. Surtout que, du coup, c'est un livre principalement à propos de du point de vue de l'auteur par rapport à ces sujets, du coup. C'est pas forcément quelque chose qui est là pour t'informer et te... Enfin, c'est pas ça, mais plus qui est pas là pour justement te faire dire « Ouais, il faut que tu te bouges maintenant, c'est juste... bon, bah, c'est comme ça que j'ai vécu personnellement la crise écologique et que je me suis rendu compte par la suite que... » Enfin, voilà quoi. Enfin, j'ai pas lu le livre. Donc, comme à Eva, je suppose que c'est... Enfin, c'est que des suppositions de ce que tu m'as dit, mais franchement... C'est comme ça que je l'imagine et ça me donne vraiment envie de lire le livre. Quoi.
Ouais, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai reçu et c'est assez vrai tout ce que vous dites, même sans l'avoir lu. Disons qu'elle appelle quand même au soulèvement, elle y croit, elle a envie que la population se lève contre ça parce que c'est des horreurs qui sont perpétuées dans le monde. Et puis, de toute façon, on est tous dans le même bateau, donc on va tous finir au même endroit, certains plus rapidement que d'autres. Hein. Mais du coup, elle croit quand même à ça, elle a cette envie. Mais elle comprend bien que chacun fait son bout de chemin et que déjà en informant, ça va faire, ça peut pousser les gens à se soulever. Ouais, tout à fait.
Oui, ok, d'accord.
Oui, et puis tu disais que dans le livre, elle source quand même ce qu'elle dit. C'est pas que son avis, elle s'appuie sur des vrais faits, des vraies observations qui ont été faites extérieurement elle ou qu'elle-même a pu faire, c'est ça?
C'est ça, puis on voit qu'en fait les mêmes schémas se répètent. Donc aujourd'hui, c'est la crise climatique, mais avant, il y avait beaucoup... Bah, il y avait l'industrie du tabac, comme je l'ai dit. Mmh. Et en fait, les schémas se répètent. C'est toujours les mêmes acteurs qui invisibilisent, qui payent, par exemple, des scientifiques pour montrer... par exemple, sur le tabac, en fait, l'industrie du tabac a beaucoup financé des recherches scientifiques pour montrer que le cancer, par exemple, pouvait venir, le cancer du poumon, pouvait venir d'autres facteurs. Et du coup, minimiser l'impact du tabac sur les cancers potentiels. Donc en disant qu'ils ne vont pas remettre en cause que le tabac ne provoque pas du cancer, mais ils vont dire que ce n'est pas forcément la principale source. Et en fait, c'est des schémas qui se répètent avec l'argent. De toute façon, les scientifiques, ils ont besoin d'argent et le privé en a beaucoup sur ces sujets-là. Et en fait, ça se répète aussi avec l'écologie, tout simplement.
Ouais, d'accord. Ouais, donc ça.
Non, je dis, il y a tout un schéma comme ça qui est très bien expliqué dans le livre. D'accord. Le mythe du déclic, je ne connaissais pas non plus. Enfin, je ne l'étais pas mis en tête comme ça. Et ouais, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé aussi.
Ok, d'accord. Eh ben, merci beaucoup pour cette recommandation, Oscar. À ton tour, Mélouane, tu voulais nous parler de basket et de handisport.
Alors oui, je voulais parler d'une des nombreuses œuvres de Inoue, donc l'auteur Takehiko Inoue, l'auteur de Vagabond et de Slam Dunk. C'est donc l'histoire d'égoïstes prétentieux et comment ils vont relever les conséquences à vivre de cette manière. Et plus particulièrement, c'est-à-dire que Inoue a, pour une raison ou pour une autre, aime beaucoup le basket. Donc je sais pas si... En tout cas, c'est un thème très récurrent dans ses œuvres. Et dans celle-là, ça va être approché d'une manière différente que dans son œuvre précédente. C'est-à-dire que... Bien évidemment, il va parler de basket traditionnel, mais il va aussi parler d'handicap et de handi basket. Donc de faire du basket en fauteuil roulant. Donc je précise, généralement, enfin tous les handicaps sont principalement basés autour d'une paralysie des membres inférieurs ou de ne plus pouvoir marcher, courir correctement, mais d'avoir quand même le haut du corps fonctionnel. Et donc c'est ça qui permet à certains personnages de se donner la motivation de faire du handi-basket. Et en fait, c'est très intéressant car même si ils ont tous la même quête, donc c'est-à-dire que d'exceller en basket, d'avoir de vouloir renouer avec ce sport, de vouloir grandir, de vouloir mûrir avec ce sport, ils ont tous des backgrounds différents. C'est-à-dire que ils n'ont pas tous le même handicap et c'est quelque chose qui est très intéressant dans cette œuvre, c'est que il est paralysé des membres inférieurs et puis ça s'arrête là. Non, il y a le problème des vertèbres et en fonction de la vertèbre affectée, tu peux avoir des problèmes de motricité différents. Donc plus c'est haut, plus c'est compliqué pour toi de faire des choses avec le bas de ton corps. Et il y a aussi le fait que un des personnages a une maladie à l'os qui lui demande d'amputer sa jambe. L'autre, c'est plus une maladie progressive qui va atteindre la plupart de son corps et qui d'abord commence avec le fait de pouvoir marcher et puis au bout d'un moment, ce sera avec le fait de pouvoir faire des expressions faciales. Donc ça nous donne une vue énorme sur le handicap, le handisport, parce que ça nous fait nous rendre compte que le handisport n'est pas forcément très répandu, et bon, après ça on peut s'en douter, mais surtout qu'est-ce que ça fait pour les athlètes derrière qui eux ont déjà beaucoup de défis à relever en tant que handicapés et parfois nouveaux handicapés, parce que certains sont handicapés depuis leur enfance, d'autres juste deviennent handicapés malheureusement. Donc ce manga, c'est surtout la quête de voir malgré un handicap, de voir se trouver soi-même, d'avoir une voix et de gérer ses propres problèmes qu'une personne. Enfin, je dirais banal, mais que n'importe qui devrait gérer, en plus d'un handicap qui peut être parfois très, très, très endommageant pour la vie de quelqu'un. Et donc, même si pour le moment, ils ont tous les trois de devenir les meilleures personnes, ils ne changent pas tellement. C'est-à-dire que certains vont, même si les trois personnages principaux sont tous les trois égoïstes et prétentieux, ne va plus du tout être égoïste et prétentieux. L'un ne va plus penser en tant qu'égoïste, mais va rester très prétentieux. Et l'autre va arrêter d'être prétentieux et juste rester quand même égoïste. Donc c'est vraiment trois manières différentes de gérer des problèmes plutôt similaires, même si, bon, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que les trois personnages principaux sont liés. C'est-à-dire qu'on les voit souvent ensemble, on les voit parler ensemble, on les voit même pendant un moment tout le temps ensemble, mais le truc, c'est que ça, c'est pas une histoire à propos des trois ensemble, c'est trois histoires différentes avec justement comment eux ils gèrent leurs problèmes personnels. Et donc c'est ça que je trouve plutôt intéressant, c'est que c'est à la fois une histoire un peu collective, donc si je dis les noms, ça peut spoiler un peu pour les handicaps, mais en tout cas les trois personnages principaux sont à la fois liés et à la fois séparés dans l'œuvre, ce qui permet du coup de bien avoir une vue globale sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils veulent, et puis comment ils vont faire pour relever les défis face à un handicap qui peut être parfois très très gênant. Et donc j'adore le fait que, un peu comme dans Akira, on commence avec des protagonistes très détestables, mais qu'on les voit évoluer et devenir vraiment des personnes très intelligentes, très, très pertinentes, et que, comment dire, beaucoup de choses du handicap est utilisé pour nous faire réfléchir. Donc le handibasket, le handisport, comment un sport où, comment dire, les athlètes se dépensent autant que tous les autres athlètes de n'importe quel autre sport, mais qu'ils n'ont pas beaucoup de visibilité, que donc c'est compliqué pour eux de vivre justement de leur passion, alors que déjà de base pour eux c'est compliqué de vivre en ayant un handicap aussi gênant. Donc franchement c'est un manga que je vous recommanderais jamais assez. De toute façon avec Takehiko Inoue c'est toujours des valeurs sûres et on est sûr d'avoir quelques dizaines de tomes devant nous pour réfléchir à tellement de sujets différents. Mais le problème, c'est que Takehiko Inoue n'a pas terminé son œuvre. Enfin, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté, un peu comme Vagabond. C'est-à-dire qu'à un moment, il a juste plus fait de chapitres. Et bon, franchement, même si on a 14 tomes, je pense que c'est déjà assez. Mais bon, c'est toujours mieux de terminer ses œuvres, quoi.
Ok, je savais pas que c'était pas terminé. Moi, j'étais persuadée que c'était fini, ça, mais absolument pas.
Bah, de ce que m'a dit Mathieu, donc un autre membre de la BDBD, qui est justement la personne qui m'a recommandé le manga, c'est plus une espèce de fin ouverte, mais pas forcément intentionnelle. C'est juste, ça pourrait être le cas dans n'importe quel moment du manga, vraiment. Mais il y a pas de fin.
Ouais, c'est pas achevé.
En fait. Ouais, voilà, c'est okay. Ça.
Moi, j'avais quelques questions. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de l'histoire? Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que t'en aies fait.
Bah en fait, justement, c'est pas...
Un synopsis, genre une phrase ou deux, parce que c'est un peu compliqué. Là, on sait qu'il y a trois personnages, on sait pas s'ils sont, en situation de handicap ou non. On sait qu'ils font du basket et qu'ils ont des personnalités un peu pourries, apparemment.
Au début, oui. Non, mais en fait, il y a pas vraiment d'histoire. L'histoire, c'est justement le comment se relever face... à des défaites de la vie, quoi. C'est-à-dire que ils ont tous leurs difficultés à eux, et on va les voir se retrouver un peu techniquement au même point. C'est-à-dire qu'ils se sentent pas bien, ils sont vraiment au plus bas de leur estime, et on les voit, ce que je trouve vraiment très 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 émouvant. Presque failli pleurer quand j'ai voyé devenir un peu meilleur, avoir juste la conviction d'améliorer leur style de vie. Justement, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, et c'est un peu toute l'histoire, justement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de synopsis particulier, et puis en plus, avec le fait que c'est les trois histoires différentes des personnages, il n'y a pas un synopsis.
Mmh. Okay, d'accord, je ne sais pas si Oscar, tu avais une...
Moi, Inoue, j'en ai beaucoup entendu parler... Par les membres de la BDBDEC, évidemment. Mmh. J'ai jamais lu. Bouh, jetez-moi des pierres. Depuis toujours, il faut que je m'y lance. Je sais, Slam Dunk, même Vagabond, qui n'est pas terminé, comme tu le disais. Sais que c'est très bien. Ce que j'ai trouvé intéressant, là, tu parlais de ces trois histoires un peu en une, si j'ai bien compris. Ça, je pense que ça peut être très intéressant au niveau scénaristique, enfin au niveau récit.
Oui, c'est franchement très bien utilisé.
J'avais une question. Est-ce que, du coup, c'est quand même assez fidèle, enfin, le sujet est assez précis. Est-ce que c'est assez fidèle à la réalité pour toi? Est-ce qu'on apprend des choses, un peu comme dans certains mangas de sport, justement, on en parlait dans une précédente émission?
Oui, on apprend beaucoup de choses. Comme par exemple, du coup, ils font du handi-basket. Et en fait, en faisant du handi-basket, le problème, c'est que, du coup, en fonction des handicaps, t'as pas forcément la même mobilité. Et donc, en fonction des joueurs, certains joueurs ont des points de mobilité. Et pour participer à un match en 5 contre 5, il ne faut pas que les points dépassent 14. Donc, après, c'est un résumé grossier que je fais, mais c'est ce genre de choses qu'on apprend. C'est aussi, il y a peut-être 2-3 tomes qui sont consacrés à la rééducation et à comment... on passe de quelqu'un qui peut bouger normalement sans problème et qui se retrouve du jour au lendemain à avoir des vertiges parce qu'il peut plus se tenir debout, et dès qu'il essaye de se tenir debout, c'est beaucoup trop haut pour lui, des choses comme ça. Donc on apprend vraiment beaucoup de choses par rapport au handi-basket, par rapport au handicap en général, voilà.
Je ne doute pas la rigueur d'Inoue pour s'être renseigné sur ces choses-là. Mais du coup, c'est ça qui est aussi intéressant dans ces mangas-là et dans ces livres-là, c'est que tu vas apprendre des choses tout en ayant une bonne histoire et en plus des beaux dessins.
Ah oui.
Parce que j'ai pas lu, mais j'ai feuilleté quand même.
C'est très beau.
Ouais. Ok.
Ouais, je trouve ça bien qu'un auteur comme Inoue, qui a cette popularité-là et cette reconnaissance-là, écrit sur des sujets comme ceux-là. C'est des sujets dont on entend peu parler, je trouve, en tout cas dans le manga, en fait. Et je trouve ça bien que ça puisse permettre de mettre la lumière dessus, finalement. Du coup, alors, pour faire un point, on a Slam Dunk, Vagabond et
Riol.
Et Riol, qui sont à la BDBD que tous les trois, je crois qu'on a tous les tomes presque à chaque fois. Donc venez les lire si ça vous intéresse. Maintenant, pour la dernière lecture de cette émission, je vais vous présenter donc ma lecture, qui est une nouveauté qui est sortie il y a peu. Je parle de #DRCL Midnight Children de Shinichi Sakamoto. C'est un auteur dont on a déjà pu parler, car c'est l'auteur de Ascension, dont Mathieu avait pu nous parler dans la première émission. Ascension, qui est un manga sur l'alpinisme. Mais si vous voulez en savoir plus, allez réécouter la première émission. Dans la suite, je dirais plus DRCL que #DRCL Midnight Children, parce que c'est un peu long. Pour un peu de contexte, il faut savoir que DRCL, donc, c'est une œuvre qui revisite Dracula de Bram Stoker, qui est un grand classique de la littérature anglaise, de la fantasy anglaise, je dirais, publié en 1897. Donc, pour un peu de contexte, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire originale, donc ça se passe entre l'Angleterre et la Transylvanie, où un groupe de jeunes adultes essaye de lutter contre Dracula, le comte Dracula, donc un vampire qui, pour le dire vulgairement, fait des trucs de vampire. Donc, il tue des gens, il boit du sang, il change des gens en vampire, tout ça. Et cette œuvre, elle a posé les bases de l'archétype du vampire avec Dracula, donc l'archétype qu'on connaît aujourd'hui, et aussi toute l'imagerie du chasseur de vampires avec Van Helsing, qui est un personnage de Dracula, de Bram Stoker aussi. Et c'est une œuvre qui compte du coup de très nombreuses adaptations, reprises, interprétations, parce que c'est hyper populaire et ça a posé les bases du genre, en fait. Et donc, très récemment, la nouvelle adaptation en manga qui est DRCL. Ce que j'ai beaucoup aimé, les dessins sont fous. Moi, c'est souvent ce qui me marque le plus. Les dessins sont complètement fous. C'est par le style de dessin de l'auteur, par la manière dont les planches sont découpées. Il y a aussi une bonne touche d'horreur. Et moi, j'aime beaucoup l'horreur graphique dans les mangas. Enfin, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et les dessins sont parfois dérangeants. Et j'aime beaucoup ça, en tout cas. Et aussi, j'aime bien le fait que le récit, il est à la fois très contemporain et assez actuel, mais en gardant à 100% ou presque les codes de l'histoire originale. Et je trouve que c'est un peu un tour de force quand même, et j'apprécie beaucoup ça. Parce que, par exemple, le roman original, c'est un roman épistolaire. Je ne sais pas si on peut vraiment dire épistolaire, mais c'est fait par entrée de journal interposée, ça change de point de vue à chaque chapitre. Et même si dans un manga ça c'est difficile à faire, il y a toujours cette notion que les personnages écrivent des notes. Ils écrivent des notes, ils écrivent un journal, ils tapent à la machine à écrire toutes sortes de choses. Et ça c'est très présent et c'est bien exploité, je trouve. L'histoire aussi se passe à la fin du 19e siècle en Angleterre, mais il y a quelques adaptations. Les personnages sont les mêmes mais n'ont pas les mêmes caractéristiques, ils n'ont pas les mêmes âges non plus. Par exemple, oui ça j'ai dit, ils sont plus jeunes en fait dans le manga, ils ont en moyenne d'âge, je dirais entre 14 et 16 ans, quelque chose comme ça. Et il y a des sujets très actuels, en fait, qui sont utilisés, ou qui sont abordés plutôt. Le féminisme avec Mina, on a un personnage qui est noir aussi, ce qui n'est pas forcément le cas dans le roman, il me semble, même si j'en suis pas tout à fait sûre. Il y a un personnage asiatique, il y a des personnages qui sont ouvertement queer aussi. Et bon, les pouvoirs de Dracula sont différents, mais ça c'est autre chose. Et bah moi, quand j'ai commencé à lire, je savais pas du tout qu'il y avait tout ça dedans. Moi, j'aime bien les vampires, j'aime bien Dracula. Du coup, j'ai vu un manga sur Dracula et j'ai acheté. Et je ne savais absolument rien de l'histoire. Et ça a été une très bonne surprise pour moi. J'avais jamais vu une adaptation comme ça. Et je trouve que ça change un peu. Et ça m'a surpris au début de voir autant de représentations de, je vais dire, de minorités, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, les représentations dans les œuvres culturelles, c'est des choses dont on parle beaucoup, parce que souvent, il n'y en a pas assez. Et souvent, elles sont pointées du doigt, souvent, quand elles sont trop présentes, entre grosses guillemets, ce n'est pas du tout ce que je pense, mais enfin, je vais le dire comme ça pour que ce soit plus clair. Et du coup, ça m'a un peu surpris de voir tout ça dans le manga, mais moi j'en étais très contente, surtout que ce sont des personnages principaux dans l'histoire. Dans l'histoire, ce sont les protagonistes, en fait. Et j'ai vu quelques gens râler. J'en ai vu peu, mais j'en ai vu quelques-uns. Parce qu'ils trouvaient que c'était un peu trop abusé, qu'il y avait trop de représentations d'un coup, que c'était forcé ou je ne sais quoi. Et en fait, je trouve ça nul, parce que, premièrement, on s'en fout. Dans la très large majorité des œuvres, comme j'ai dit, il n'y a pas trop de représentations, ou en tout cas que pour des personnages secondaires, et bah, c'est moyennement intéressant. Et en plus, dans la littérature, comme je l'ai dit, il y a déjà beaucoup d'adaptations de Dracula, en fait. Donc si on veut trouver une adaptation où il n'y a aucune représentation de rien du tout, où il n'y a aucun personnage queer, où il n'y a aucune personne non blanche, bah, on trouve très facilement. Donc c'est pas ça qui manque, j'ai envie de dire. Et puis ce que j'ai bien aimé aussi, alors je l'ai pas, maintenant il n'y a qu'un tome qui est sorti, donc je ne sais pas comment ça va évoluer dans la suite de l'histoire, évidemment. Mais en tout cas, dans ce premier tome, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les caractéristiques des personnages ne sont pas pointées du doigt ou ne sont pas pointées comme des problèmes ou ne sont pas pointées comme des... En tout cas, comme des problématiques qu'il faut traiter dans le contexte de l'histoire. Par exemple, comme j'ai dit, il y a des personnages qui sont queer. À aucun moment, c'est montré comme une souffrance pour le personnage et c'est une problématique de l'histoire qu'il faut traiter, etc. Et ça ne se passe pas comme ça. Et je dis pas que c'est un mal que ça se passe comme ça, mais en tout cas, ça se passe pas comme ça ici. Donc,
oui, c'est juste banalisé.
Donc. C'est juste assez banalisé. Oui et non, parce que ça dépend. Mais en tout cas, entre les personnages, c'est banalisé. Et comme c'est avec eux qu'on évolue majoritairement, bah, c'est sympa. C'est sympa. Et moi, j'ai bien aimé. Donc, je sais pas si vous êtes familier avec tout ce qui est les vampires, Dracula, tout ça.
Alors, très peu. Enfin, je connais l'histoire, évidemment. Je reviens sur ce que tu disais en dernier. En effet, le fait que on amène cette diversité et tout ça dans les, comme tu dis, dans les œuvres, c'est de plus en plus récent et de plus en plus présent. Mais c'est souvent pour remplir, allez, on va dire des quotas. On va pas faire de langue de bois. Mais en effet, sur certaines œuvres, et j'ai l'impression et j'espère que c'est de plus en plus. Où c'est justement, alors banaliser c'est parfois un peu péjoratif, mais dans ce cas-là je pense que c'est bien, c'est-à-dire que voilà, la diversité elle existe et elle se fait naturellement en fait dans ces œuvres-là et ça ne devient pas, comme tu dis, des problématiques et on ne fait pas tout un scénario ou un plat autour de cette caractéristique-là. Mmh. Ça je trouve ça super bien et j'espère que c'est de plus en plus, en tout cas ça existe. Ce que je trouve intéressant, alors moi je l'ai feuilleté rapidement, en effet je confirme, les dessins ils sont incroyables et il y a beaucoup d'horreur aussi et il y a toujours, c'est comme un peu, alors je vais peut-être faire un parallèle qu'il ne faut pas faire, mais avec Berserk, moi quand j'ai découvert Berserk, les dessins, c'est juste pour les dessins un peu gore, hein. J'avais jamais vu ça et j'ai été soufflé quoi, j'ai fait waouh, ça existe, c'est magnifique quoi. Donc après j'imagine que l'histoire n'a rien à voir, mais
vraiment pas.
Je fais pas ce parallèle là pour le synopsis ou le scénario, mais plutôt pour l'horreur, comme tu parlais. Et je trouve très intéressant de revisiter des œuvres avec des personnages qui ont les caractéristiques de base, et peut-être un peu différente comme tu le disais, mais aussi plus jeunes qui n'ont pas forcément le même âge, ça permet d'intégrer une histoire dans une autre époque. Et je trouve que ça se fait pas mal, j'ai pas forcément d'œuvre à citer, mais je trouve que c'est plus intéressant de faire ça en revisitant une œuvre que de garder vraiment la même typologie des personnages telles qu'elles sont déjà décrites dans les œuvres originelles, et de faire un copier-coller en fait. Et ça fait parfois un peu râler les puristes, on va dire. Alors peut-être que ça c'est... T'as dit que ça suivait un peu l'histoire quand même.
Ouais, ça suit.
Peut-être que c'est un peu décalé. Quand c'est trop décalé, les puristes, ils laissent un peu de côté, donc ça va. Mais c'est vrai que parfois, on va revisiter des œuvres assez proches de la réalité en changeant des trucs, et là, c'est fini, quoi. C'est...
Ouais.
Moi, je trouve ça trop bête d'en arriver là, parce que c'est trop bien d'avoir un univers et de venir mettre plein de choses dedans. Ça, ça alimente juste le lore, comme on pourrait dire.
Oui, laisser l'artiste justement avoir sa propre vision sur le monde et justement y ajouter ce qu'il trouve comme intéressant et qui a de la valeur pour l'histoire. Surtout que oui, au niveau des dessins, franchement, quand tu me dis que c'est d'Ascension, je m'attends à beaucoup de choses et j'ai feuilleté un peu et les dessins sont très bien fait.
Ouais, non mais c'est ça. Alors moi déjà j'ai vu la couverture.
Ouais, la couverture,
c'est
là,
trop elle jolie, est... j'aime bien.
Elle est juste en face de moi et franchement là je salive, hein, elle est vraiment très bien.
Non mais oui, sinon sur ce que tu disais, pour bien ce que tu disais, Oscar, par rapport à la représentation et à la diversité dans les œuvres, voir ce genre de manga, ça m'encourage à... Ça m'incite à croire que ça change, en fait, ce genre de choses évolue et qu'on est de moins en moins dans le cliché que oh, bah, la seule personne qui va faire, entre guillemets, le témoin diversité, ça va être la meilleure amie lesbienne, le meilleur ami gay, le meilleur ami noir ou un truc comme ça, qui est un personnage archi secondaire et qui n'a pas une importance capitale dans l'histoire et qui est juste là pour dire oh, regardez, on a un peu de diversité. En tout cas, ce n'est pas le cas dans cette œuvre-là. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'essence des personnages est conservée, en fait. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Lucie, qui est présentée dans le roman original comme très belle. Elle a vraiment une aura, en fait. Et cette aura, elle est conservée dans l'histoire, dans le manga, même si le personnage n'est pas le même exactement et est différent. Cette aura et l'essence du personnage, en fait, est conservée, même si c'est fait différemment. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est ça pour quasiment tous les personnages. De ce que j'ai vu, encore une fois, j'ai lu qu'un tome, les autres ne sont pas sortis, désolé. Donc voilà, donc globalement, si vous aimez Dracula, les vampires, ou si vous aimez juste lire des belles choses, eh ben vous pouvez y aller. Les yeux fermés, j'allais dire, ce serait dommage, mais vous pouvez y aller quand même.
Et est-ce que c'est disponible à BDVDEC ?
Non, malheureusement, c'est pas disponible à BDVDEC.
Peut-être un jour.
Peut-être un jour, peut-être que je pourrais militer pour que ça soit disponible, on verra bien. Mais en tout cas, ça l'est pas pour le moment. Pour cette émission, on a décidé de parler un peu d'actualité, puisque comme vous le savez peut-être, Akira Toriyama, notamment connu pour son œuvre Dragon Ball, nous a quittés le 1er mars 2024. Melwen va pouvoir nous en dire un peu plus sur lui et sur son œuvre.
Alors oui, Akira Toriyama, c'est surtout Dragon Ball, et ça vaut le coup de parler rien que pour Dragon Ball. Il est arrivé dans les années 80 et 90, et... C'était une explosion, il était super connu, que ce soit en Occident, que ce soit au Japon, c'était un vrai phénomène. Et en soi, c'est pas forcément... Il n'y a pas de raison particulière, il n'était pas révolutionnaire en termes de contenu, il n'était pas révolutionnaire en termes de genre, mais dans tous les cas, il a initié un vrai mouvement, surtout au niveau des shonen. Il est arrivé au bon moment, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque... Les mangas et animés en général étaient très 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 sérieux. Je veux dire, Ken le Survivant, il y avait Akira aussi qui était déjà connu à l'époque. Le studio Ghibli arrivait petit à petit pour ajouter sa petite touche, mais tout ça c'était complètement différent de Dragon Ball qui était très, comment dire, maintenant on dirait basique, mais à l'époque c'était quelque chose de... On n'avait presque jamais vu ça avant, quoi. Avec, des power-up, avec un personnage principal très simple, mais qu'on peut aimer très facilement. un manga tout public, que quand on dit tout public, c'est vraiment quelque chose que n'importe qui pourrait apprécier, quelque chose qui aussi allège l'image du manga et de l'animé, surtout en Occident. C'est quelque chose qui a, je crois, il n'y a pas vraiment de source dessus, mais quand on parle des années 90 et d'animé super populaire, il n'y a que Dragon Ball qui vient en tête, personnellement. Donc, à part Akira, mais il n'est pas tout public et c'est justement quelque chose qui va le limiter. Mais Dragon Ball, n'importe qui pouvait l'en regarder, n'importe qui pouvait apprécier ce que c'était. Et même si il a pas fait que ça, Toriyama a aussi participé au design de Dragon Quest, donc design des monstres et des personnages. Et même si pour nous occidentaux, je pense que je vous apprends ce que c'est Dragon Quest, c'est un JRPG, donc Japanese Role Play Game, qui est sorti dans les années 80, 90, les suites dans les années 90, donc un peu comme Dragon Ball, donc c'est arrivé un peu en même temps, mais c'est aussi devenu une référence dans les JRPG justement, c'est-à-dire que c'est maintenant, même si bon, encore une fois, Toriyama n'a participé qu'au design, mais c'est quand même déjà énorme qu'il a eu un impact aussi important et qui... dans les animés et dans les jeux vidéo, et quand je vous dis que Dragon Quest est très très connu, c'est-à-dire que la plupart des JRPG actuels ont comme formule de base un peu comme Dragon Ball en fait. Les shonen actuels ont une formule de base qui fait beaucoup penser à Dragon Ball, même si bon, il y a une espèce de tendance justement à inverser ça. Mais je veux dire que dans les années 2000, One Piece, Bleach et Naruto, on peut sentir vraiment l'admiration pour Dragon Ball. Et justement, c'est un peu Dragon Quest similaire, c'est-à-dire qu'il a instauré des bases, une espèce de tendance à faire un JRPG de la manière Dragon Quest. Et Dragon Ball, du coup, et Dragon Quest ont vraiment initié un mouvement juste à s'intéresser au genre du manga shonen et à s'intéresser au JRPG. Mais c'est donc ça a aussi développé la création, parce que donc comme Naruto, One Piece et Bleach, l'une des inspirations les plus grandes, ça peut se sentir, c'est quand même Dragon Ball quoi. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant à voir, c'est que même Oda lui-même l'a dit justement sur Twitter, c'est que sans Dragon Ball, il n'y aurait pas eu One Piece. Ce serait le cas de nombreux animés et de nombreux genres, La face actuelle des animés et des mangas serait complètement différente sans Dragon Ball. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un de très influent, quelqu'un qui a une influence énorme, un impact énorme sur la sous-culture d'absolument tout le monde. Donc franchement, repose en paix Toriyama, on apprécie beaucoup tes œuvres. Je les ai pas encore lues, mais
ça serait le comble que personne les ait lues ici.
Ah ouais, ce serait marrant ça, que personne les ait lues ici.
Bizarre.
C'est complètement fou.
C'est ça justement qui est très très important avec Dragon Ball, c'est que même si de ce que j'ai compris, personne ne l'a lu.
Non, moi j'ai commencé à la BDBDEC notamment parce qu'ils étaient sous-mondés.
Oui.
Et j'ai adoré le début. Après, j'ai pas du tout grandi avec Dragon Ball ou encore Dragon Ball Z même qui était à la télé, mais j'étais entouré de gens complètement fous à ça et donc voilà. Mais c'est vrai que c'était pas, j'avais pas ça à la télé, on va dire, donc je regardais pas.
Oui, je vois.
Mais c'est fou l'impact que ça a eu. Et
oui,
dis,
c'est clair.
Ça a créé One Piece, ça a créé.
Ça a inspiré One Piece.
Oda, mais ça a inspiré des grands auteurs aujourd'hui, des grands mangaka. Et voilà, si Oda Eiichiro, lui, le créateur de One Piece, le dit lui-même, on peut le croire, je pense.
Ouais.
Ah, ça, mais ce que je trouve fou en fait avec Dragon Ball, enfin moi non plus, j'ai regardé un petit peu l'animé, mais j'ai pas regardé plus que ça. Et puis comme toi, Oscar, j'ai pas du tout grandi avec ça. C'est qu'en fait, c'est une œuvre qui fédère vachement en fait plusieurs générations différentes. Parce que moi personnellement, le plus grand fan de Dragon Ball que je connais, c'est mon beau-père, et il est de la génération d'au-dessus, quoi. Donc Donc voilà, et mais à la fois ça concentre des gens beaucoup plus jeunes, mon petit frère il lit Dragon Ball aussi par exemple, et oui, des gens de mon âge aussi. Et aussi, c'est pas forcément que des fans de manga de base qui vont aimer Dragon Ball, il y a des gens qui lisent pas du tout de manga, pas du tout d'anime, mais juste ils vont kiffer Dragon Ball.
Oui,
et pareil pour les One Piece, il y a plein de gens qui regardent pas du tout de manga ni d'anime, mais ils vont juste kiffer One Piece. Mmh. Et puis aussi, c'est rentré un peu dans la culture populaire collective, dans le sens où tout le monde connaît Dragon Ball quasiment.
Oui.
Tout le monde voit qui est Son Goku, je pense, ou
oui,
Dragon Ball. Des gens ont déjà une bonne image de ce que c'est, et je trouve que c'est quand même très fort, quoi.
Oui, non, c'est-à-dire que Dragon Ball a eu un impact vraiment intergénérationnel, et maintenant, c'est-à-dire que c'est quelque chose de devenu iconique, la manière dont c'est comment dire le design des personnages, je veux dire, j'ai pas découvert vraiment Dragon Quest, je connaissais pas avant que le héros sorte sur Smash Bros, mais je voyais que c'était directement Toriyama, parce qu'il a un style particulier. Les personnages sont iconiques maintenant, et puis ça fait des années ça gagne encore plus en popularité. Donc et des références aussi sur internet, on en croise absolument partout, de Dragon Ball. C'est vraiment quelque chose qui a un impact énorme, quelle que soit la génération, quel que soit le domaine, donc que ce soit le jeu vidéo et le manga. Et puis franchement, c'est quelque chose qui est un incontournable, et même si la plupart des gens n'ont pas vraiment lu tout Dragon Ball, parce que en plus je suis perdu avec les Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, ouais. Dragon,
ah, ça faut s'y intéresser pour comprendre,
faut vraiment s'y intéresser. C'est vrai que ça me motive pas trop à regarder, mais c'est quelque chose qui subsiste. Il y a encore plein de jeux Dragon Ball, plein de films Dragon Ball, de séries Dragon Ball qui sortent encore, alors que les premiers tomes et les premiers épisodes sont sortis il y a presque 30-40 ans, quoi. Donc là c'est 1986 si je me souviens bien pour Dragon Ball, donc c'est quelque chose de très très important, voilà.
D'accord, et ben après toutes ces belles petites conversations. Ah oui, je voulais juste dire que Dragon Ball est disponible à la BD Bedeck.
Évidemment.
La première, du coup, c'est Dragon Ball tout court qui est disponible à la BD Bedeck. On n'a pas les autres, il me semble. Voilà,
donc c'est la meilleure.
L'édition est plutôt vieille.
Oui, peut-être. C'est une édition, je crois que c'est un sens de lecture français, quelque chose comme ça.
Oui,
oui, en effet.
Ouais, ça doit être ça, parce que ça fait longtemps qu'on les a. Du coup, après toutes ces belles conversations, on passe maintenant à la deuxième partie de l'émission, la partie autour du thème, et le thème du jour étant le post-apocalyptique. Tout d'abord, quelques petites définitions. C'est le genre post-apocalyptique, c'est un sous-genre de la science-fiction qui dépeint un monde dans lequel la civilisation humaine, telle qu'on la connaît en tout cas, a été détruite. Il faut, à mon sens, différencier le post-apocalyptique de l'apo et du pré-apocalyptique, qui sont des thématiques, enfin, pour moi, ça n'aborde pas les mêmes thématiques, en fait, entre les deux genres, et le pré-apocalyptique étant globalement ce qui se passe juste avant l'apocalypse. Du coup, ça va être un peu tout ce qui va être les films catastrophes, en fait, pour un peu se resituer. Les gens essaient de survivre, tout ça. Un truc de ouf qui leur tombe dessus. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris, la chose, et que j'ai fait la distinction. Donc là, on va essayer de plutôt se concentrer sur le post-apocalyptique. Et les grandes questions qui sont souvent soulevées par ce genre, c'est comment tout reconstruire ? Est-ce qu'il faut le faire ? Quelle est la vraie nature humaine quand la société et la civilisation ne sont plus là pour les inhiber ou les cacher ou donner des codes qu'il faut respecter. Et souvent, ce qui est abordé, de ce que j'ai pu lire ou voir, c'est que le plus grand danger pour les hommes, ce sont les hommes eux-mêmes et pas forcément leur environnement. Et puis aussi, les auteurs peuvent se servir beaucoup de ce genre pour faire un peu comme une expérimentation avec leurs personnages et de voir comment ils réagiraient face à telle ou telle situation. Voilà, c'était pour le petit contexte un peu et poser les bases de ce dont on va parler. Donc Oscar, tu voulais nous parler d'une œuvre en particulier sur ce thème ?
Oui, tout à fait. Donc c'est une œuvre que j'ai découverte à la BD Bedeck qui s'appelle Mécanique Céleste. Donc aujourd'hui, elle est en deux tomes. Donc c'est un roman graphique, série, donc BD, de 200 pages, donc assez conséquent. Et le deuxième tome vient de sortir là, en octobre 2023. Il fait aussi 200 pages et je l'attendais avec impatience parce qu'il est sorti 4 ans après le premier volet. C'est un roman graphique de Merwan qui a fait le scénario, les dessins et les couleurs. Donc vraiment, les dessins sont top aussi. Regardez. Et donc ça se passe totalement dans un univers post-apocalyptique en France. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant. C'est que ça pourrait totalement être notre monde de demain. J'espère pas. Hein. On se rend compte, on comprend du moins que ce monde post-apocalyptique a été créé par une guerre, parce qu'on voit encore des soldats morts dans les villes, des chars par exemple abandonnés, des carcasses de chars, etc. Mais on comprend aussi que ça fait un petit moment déjà. Et en fait, ils vont essayer de se débrouiller à survivre. Du coup, comme tu le disais, dans ce genre-là, c'est souvent le cas. Et donc, ils ont une petite cité qui s'appelle Pan. Et Aster et son ami Wallis, donc les personnages principaux, ils vont, on va dire, à la chasse aux objets, au recyclage. En fait, pour subsister, ils vont faire en sorte d'aller récupérer sur le champ de bataille ou dans les villes qui ont été inondées, des choses comme ça, de la poudre à canon, des matières premières qui vont pouvoir ensuite, ce qu'ils appellent le recyclage, mais tout simplement donner à la communauté et récupérer des rations ou de l'énergie. Donc c'est souvent les schémas qu'on retrouve dans le post-apocalyptique, c'est qu'on va être rationné, tout va être calculé parce qu'on manque de tout. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est là où l'homme peut être dangereux pour lui-même, parce qu'on va essayer d'aller chercher, de voler, d'aller chercher la ressource qu'on n'a plus. Et voilà. Donc ça, c'est un peu le contexte de début. Et on pourrait rester là-dedans vraiment longtemps, dans cette cité de Pan qui a survécu et qui grossit, qui a une société. Mais en fait, un jour, il y a un émissaire d'une autre cité. Donc eux, ils pensent qu'ils sont tout seuls. Ils n'ont pas eu de contact avec l'étranger, si on peut dire, avec d'autres cités depuis l'apocalypse, on va dire. Et un jour, il y a un émissaire d'une autre cité qui arrive et qui leur dit « Ok, on va revendiquer votre terre, on va vous annexer à la grande cité de Fortuna, qui est beaucoup plus évoluée en termes de... qui s'est beaucoup mieux reconstruite, on va dire. » Et il y a une règle pour décider de ça, quand il y a un conflit, en fait, ça se règle tout simplement à la balle aux prisonniers. Donc déjà, déjà ça met un peu le contexte.
C'est moins violent que ce à quoi je m'attendais.
C'est pas forcément moins violent, parce que c'est une balle aux prisonniers très particulière, qui peut jouer dans un terrain comme on a pu le faire enfant, mais aussi dans d'autres terrains plus vastes, avec c'est ça qui rend aussi intéressant le match. J'en dis pas trop, parce que sinon
ça marche.
Je vais tout spoiler, mais c'est très intéressant. Parce que ça donne lieu à des matchs qu'on suit comme ça. En fait, on est plongé dans un monde post-apo. On commence à s'habituer un peu. Et là, on se retrouve plongé dans un... Alors, je ne vais pas dire un livre de sport non plus, mais dans un match où on va frissonner parce que ça va marquer des points ici, etc. Et franchement, j'ai adoré par le dessin déjà, par l'histoire, par le cliffhanger à la fin. Et je n'ai pas lu le deuxième tome encore parce que je ne me le suis pas procuré. Et j'ai découvert un peu tard qu'il était déjà sorti. Et c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment... Je l'ai lu en 2019, le premier. Et c'est vraiment un livre dont j'attendais la suite avec beaucoup d'impatience. J'avais un peu abandonné parce que 4 ans, c'est long. Enfin, j'avais un peu oublié. Ouais. Et là, j'ai trop envie de lire la suite.
Ah, tu m'étonnes.
Oui, je vois.
Bah, écoute, j'ai pu feuilleter un petit peu le livre. Du coup, les dessins sont très jolis. C'est très joli. Et je trouve ça très, très, très doux, en fait. Ça fait c'est pas... Ouais, je ne m'attendais pas forcément à ce genre de choses, parce que moi, en tête, j'ai plus lu The Walking Dead, qui ne parle pas du tout de la même chose, mais qui est du post-apocalyptique quand même, à mon sens. Enfin, c'est une œuvre de zombies, mais enfin, pour moi, ça se rapproche. Et le style est beaucoup plus violent, par contre. Genre, ne serait-ce que dans les scènes, même dans le dessin, c'est... Bah, déjà, tout est en noir et blanc, c'est des gros à plat et tout, c'est beaucoup plus lourd, on va dire. Et... Ouais, ça a l'air vraiment sympa. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de la balle aux prisonniers dedans, ou que ça se transforme en truc de sport à un moment donné.
Il nous emmène dans son univers, ouais, Merwan. Ça. Et en effet, comme tu dis, c'est vrai qu'à la radio, on ne voit pas trop les images, mais tel que je l'ai décrit, c'est peut-être un peu violent. Et en fait, non, les dessins, ça... En fait, ils n'ont pas grand-chose, mais ils vivent bien. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait être... C'est plongé dans un... Donc en France... Et dans le monde, dans notre monde, donc ça pourrait être tout à fait ce qu'on pourrait être amené à vivre un jour, je l'espère pas, mais ouais. Voilà, ça rejoint un peu ce qu'on disait avec le premier livre dont je parlais de Camille Etienne, c'est-à-dire que là, on fonce un peu droit dans un mur. Peut-être que derrière, les guerres se déclencheront et qu'on finira comme ça, comme dans Mécanique Céleste.
Ouais, j'espère pas non plus.
Moi non plus.
Ça se passe en France. En vrai, je trouve ça original aussi que ça se passe en France. C'est pas, non, pas, après, si l'auteur il est français, c'est ça.
Oui.
Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Ok, d'accord. Bah, hyper intéressant. Et du coup, il est à la BD Bedeck.
Je tiens à dire que le fait que ça se passe en France, c'est pas central, hein, mais on le voit. Voilà, c'est la ville. Je pense que c'est la ville de Fontainebleau. Voilà, il y a quand même quelque chose, quelques villes qui sont citées où on voit des moments commissariat de police, etc.
Ouais,
avec,
je vois.
Voilà, donc, mais c'est pas du tout central. Hein,
oui, je comprends. Moi, je trouve ça sympa des fois quand les BD comme ça se passent en France parce que ben on a les références entre guillemets. On se dit oh, je connais.
On s'identifie.
Ouais. C'est cool. Et ça change un petit peu. Et ok, je savais pas du tout que c'était de la BD Bedeck. Super sympa. Je pense que je le lirai parce que ça a l'air vraiment très cool. Moi, j'avais noté quelques œuvres dont j'aurais pu vous parler relativement brièvement. Déjà, c'est... Alors, je suis retombée dessus en faisant des recherches. C'est La Route de Cormac McCarthy. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre.
Pas du tout.
C'est un classique, en fait, un peu du genre post-apocalyptique. Et c'est un livre que j'ai dû lire en seconde. J'étais obligée de le lire pour l'école. Et je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas aimé. Parce qu'en général, quand on me force à lire un truc, je ne l'aime pas automatiquement. Et ça raconte... En quelques mots, l'histoire d'un père et son fils qui marchent inlassablement sur une route pour aller vers le sud, en fait, pour essayer d'atteindre un endroit meilleur pour eux. Et ils marchent avec toutes leurs affaires dans un petit caddie et un sac à dos. Et en fait, c'est vrai que c'est très... pas contemplatif, mais je trouve qu'il se passe peu de choses. Et en fait, les choses nous sont racontées petit à petit. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait quand même pas. On ne sait pas pourquoi vraiment... comment ils en sont arrivés là exactement. On sait même pas comment le monde il en est arrivé là non plus, on sait rien en fait, et c'est juste que il y a des gens qui sont devenus un peu fous avec tout ce qu'il aurait, enfin avec le changement du monde et ce genre de choses. Et c'est très particulier, on va dire, et ça peut paraître, en fait, moi je pense que ce livre, c'est soit on adore soit on déteste. Moi je l'avais trouvé un peu chiant parce qu'il se passe peu de choses en réalité en termes d'action, il se passe vraiment peu de choses. Mais je pense que peut-être aujourd'hui avec un œil nouveau, je pourrais peut-être plus l'apprécier parce que c'est un livre qui raconte quelque chose. Non, tous les livres racontent quelque chose.
Mais c'est une histoire, une sorte de road trip un peu aussi.
Ouais, un petit peu, mais j'aurais vraiment du mal à décrire ce livre. En tout cas, c'était juste pour en reparler ici parce que ça m'a fait assez étrange de retomber sur ce livre que j'ai complètement oublié et qui est en train de pourrir au fond de mon étagère, quoi. Donc... Je trouvais ça étonnant de retomber là-dessus et je me suis dit que vous connaîtriez vu que apparemment c'est un classique, je l'ai lu avec l'école quoi.
Pas du tout, c'est la première fois que je le vois, mais en fait je me dis que c'est un peu comme Fallout, enfin le jeu, c'est la seule référence que j'ai en termes de post-apo, parce que j'ai pas vraiment beaucoup de références, mais je sais que dans Fallout c'est un des trucs qui est très qui crève les yeux, c'est que y a pas grand chose, c'est très vide, et en soi ça correspond au thème de post-apo. C'est normal qu'il y ait pas d'action, c'est normal qu'il y ait pas grand
ça
chose.
Ça dépend des œuvres, parce que c'est justifiable, et c'est le cas de La Route par exemple, mais c'est pas du tout le cas d'œuvres comme Walking Dead où c'est une survie de chaque instant, c'est un défi de chaque jour, de chaque minute.
Oui, non, mais bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que
pas non plus le cas de Mécanique Céleste, du coup.
Il y a peut-être un post-apo qui peut être différent si c'est déjà loin, si la reconstruction a déjà commencé, une nouvelle société a commencé à s'établir, ou si c'est vraiment survivre dans le monde qu'on vient de nous laisser depuis l'apocalypse. C'est peut-être plus le cas dans Walking Dead où il faut survivre face à la menace. Dans Mécanique Céleste, ça s'est déjà passé, il faut survivre plutôt face au monde qu'on a laissé.
Ouais,
et foncièrement, il n'y a pas vraiment de gros dangers si ce n'est manger, survivre, aller dans les bois pour se faire manger par par quelque chose.
Ouais, je vois. Et non, mais je suis d'accord. Et je sais plus, j'ai perdu le fil, je sais plus. J'ai vu ce que tu disais, Melwan.
Du coup, je parlais du fait que c'était techniquement justifiable. Enfin, ça dépend forcément de la peau, de ce qui s'est passé, la catastrophe qui est arrivée. Mais c'est en soi pas forcément surprenant du coup qu'il n'y a rien, parce que dans le cas aussi de Fallout, c'est que bah, c'est un, une dévastation nucléaire, mais après la dévastation, il ne reste rien. C'est, pas, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est justement... la peau, c'est pas que il faut survivre du coup dans ce genre de cas. Enfin, c'est pas que il faut survivre en se battant, en comment dire, chaque seconde de notre vie doit se passer à faire ça. C'est juste passivement essayer de survivre quoi.
Non, je comprends. Après, c'est vrai que souvent, parfois, ça arrive que dans le post-apocalyptique, il y a des choses un peu plus contemplatives, on va dire, où il s'agit plus de d'observer le nouveau monde qui est là, et c'est là qui est plus l'intérêt de l'histoire en fait. Parfois, c'est pas tant dans la survie du coup, mais c'est d'observer le monde, le nouveau monde qu'on a quoi. Et alors j'ai pas trop d'œuvres en tête par rapport à ça, j'avoue. Mais je sais qu'il y en a parce que j'en ai déjà vu passer. Je sais plus lesquelles exactement. Tout à l'heure j'ai parlé de Walking Dead. Je vais pas en parler plus que ça parce que c'est quand même très 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 connu. Moi j'ai commencé par la série, puis j'ai lu un petit peu la BD aussi de Robert Kirkman qu'on a la BD Bedeck également. Et en fait pour moi, le grand thème de Walking Dead, en fait, c'est la nature humaine. Et ça... Donc, en fait, le vrai danger, c'est pas les zombies, mais c'est les autres personnes. Et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup choquer à l'époque quand j'ai commencé à regarder la série. J'étais vraiment assez jeune quand même. Et parce que moi, au début, je m'étais dit, oh, mais c'est. Non, il y a eu une apocalypse de zombies. Évidemment, les gens vont se soutenir entre eux pour lutter face aux zombies. Pas du tout. Ça se passe vraiment pas comme ça. Et c'est quelque chose qui m'avait... Alors, aujourd'hui, je suis plus du tout surprise par ça, parce que j'ai grandi peut-être, mais quand j'étais plus jeune, ça m'avait... ça m'avait choqué que les gens se tapent dessus plutôt que de lutter ensemble contre les zombies.
Et du coup, étant donné que t'as vu un peu des deux, comment dire ? Quelle est vraiment la différence entre la série et la BD, si tu peux en nous
inciter ? Alors en fait, il y a des personnages qui ne sont pas les mêmes déjà. Il y a des personnages qui n'existent pas dans la série, qui sont dans la BD, et inversement, il y a des événements qui se passent qui ne sont pas les mêmes, et il y a des choses qui sont parfois beaucoup plus osées, beaucoup plus osées dans la BD que dans la série. Si on a vu, parce que c'est des choses qui sont très... pour une série, c'est difficile et ça perd le... Ça perd la personne qui regarde, je pense. Et c'est le genre de choses qui te fait lâcher la série, en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait certains choix, je pense. Mais qui sont présents dans la BD ou qui seraient trop contraignants pour les acteurs, après, ce genre de choses. Ouais. Et voilà. Aussi, je trouve que le style graphique apporte beaucoup. Ce qui est assez original, c'est que je sais pas trop pourquoi c'est comme ça. Je pense que c'est un problème de dessinateur, je sais pas trop. Mais le premier tome, c'est pas la même personne qui l'a dessiné que tous les autres. Je sais pas qui a dessiné tel ou tel tome, mais le style il change radicalement entre le premier tome et les autres tomes. Le premier tome, le style est beaucoup plus doux, on va dire. Il y a des niveaux de gris, tout ça. Dans le deuxième, c'est vraiment plus. Je l'ai dit, c'est très brut. Il y a beaucoup de noir, beaucoup de blanc dans les couleurs utilisées. C'est vraiment plus. C'est plus brutal, quoi. Et voilà. Donc, je sais pas si vous avez encore des choses. Des choses à aborder par rapport à tout ça. Donc, je pense que si vous avez quelque chose à dire, je pense qu'on peut tous s'arrêter là. Merci à vous d'être venus, d'avoir participé, c'était super cool. Bonne semaine, bonne semaine tout le monde, et à la prochaine fois. Donc on se retrouve tout un jeudi sur deux de 10h à 11h sur Graphite, et vous pouvez retrouver nos émissions sur graphite.net. Salut.
Merci beaucoup.
Salut.